14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Le froid est glacial en cette soirée du 30 janvier 1933. Voilà une date historique, hélas, puisque c'est le jour de l'accession d'Hitler au pouvoir. Et dans les rues de Berlin se déroule évidemment une grande retraite aux flambeaux. Ils sont là par rang de 10, tous ces hommes qui portent la même tenue. Culotte de cheval, bottes noires, long manteau, une casquette bien sûr, et puis au bras gauche, un brassard avec une croix gammée. Il s'agit des SA, les terribles sections d'assaut, le service d'ordre d'Adolf Hitler, qui vient d'être nommé chancelier le matin même par Hindenburg. Ils sont encore, et pour peu de temps, en service, ces SA, suivis par toutes sortes d'Allemands, certains notables en costume, d'autres en bleu de travail. Il y a en effet pas mal d'ouvriers qui sont là, et puis des chômeurs aussi. Tout le monde fait le salut nazi. Bientôt, ils sont 25 000 à la porte de Brandebourg, à Berlin, une torche et des drapeaux nazis à la main, tandis que depuis une fenêtre de la chancellerie, Hitler est là, qui contemple un spectacle dont il avait rêvé, évidemment. Parmi les nombreux Berlinois qui sont descendus dans la rue, beaucoup acclament les SA, crient « Vive Hitler !». Certains sont même ornés de croix gammées qu'ils ont cousues eux-mêmes sur leurs vêtements. C'est le soutien à ce nouveau chancelier qui est censé sauver l'Allemagne. Depuis le matin, une jeune femme s'enthousiasme de tout ce qu'elle voit. Elle participe à la liasse populaire. Elle ne fait qu'1,50 m, ce qui fait que dans la foule, elle n'a pas pu apercevoir Hitler à la sortie de sa rencontre avec Hindenburg, mais elle lui voue à cet homme-là une véritable admiration. Elle est toute jeune, Anna Reitsch. Elle a 21 ans. Elle est étudiante en médecine. Comme elle est fervente catholique, elle voudrait devenir médecin missionnaire. Mais ce 30 janvier 1933, elle sent que quelque chose d'autre est en train de se dessiner. Un autre destin l'attend. Elle veut servir son pays. Elle veut servir Hitler, qui promet la renaissance de l'Allemagne.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Anna Reitsch est née dans une famille conservatrice de Basse-Silésie, famille même nationaliste. La Basse-Silésie, on est aujourd'hui en Pologne. Elle est née en 1912. Son père était ophtalmo. Sa mère, évidemment, ne travaillait pas à l'époque. Elle est d'une origine aristocratique, la maman. Et dès l'enfance, on peut dire que cette petite fille se fascine pour la grande invention de l'époque, c'est-à-dire l'aviation. Elle regarde notamment les exploits de l'aviatrice Thea Rasche, qui est la première femme allemande pilote de voltige. Et après les cours, tous les soirs, Anna Reitsch continue de se rendre à l'aérodrome pour essayer de faire un peu de vol à voile. Elle observe les planeurs. À 19 ans, après avoir obtenu son baccalauréat, c'est pour elle le brevet de pilotage. Elle dira dans une interview qui date de 1972 « J'ai senti ces forces invisibles me soulever et m'emporter toujours plus haut jusqu'à ce que je puisse voler au-dessus des sommets ». Tout devenait de plus en plus petit. Oh, c'était merveilleux, un véritable conte de fées. L'univers de l'aviation est masculin à l'époque, j'ai pas besoin de vous dire. On se moque bien sûr de cette petite jeune femme de 40 kilos qui débarque, mais on va pas s'en moquer longtemps parce que Anna Reitsch est douée, très douée même. Elle a son brevet de pilote de planeur assez rapidement, bientôt celui d'avion à moteur également. Elle enregistre son premier record, 5h30 de vol sur un planeur, et puis Anna Reitsch part pour Berlin où elle doit étudier la médecine. La vérité, c'est qu'elle veut se consacrer le plus possible à sa nouvelle passion. Elle va être monitrice dans une école de vol à voile dans le Bad Württemberg. Elle participe ensuite à une expédition au Brésil, en Argentine, pour essayer d'étudier les conditions météorologiques pour des lignes qu'est en train d'ouvrir là-bas en Amérique du Sud, la Lufthansa. Et à son retour, elle est engagée par l'Institut allemand de recherche sur les planeurs de Darmstadt comme pilote d'essai. Le vol à voile est une pratique très encouragée à l'époque, puisque le traité de Versailles en 1919 a interdit à l'Allemagne l'aviation militaire motorisée. Donc on met tout l'accent sur les planeurs, notamment au moment de l'arrivée au pouvoir des nazis, qui vont beaucoup croire au vol à voile. En 1936, Anna décroche le record du monde de distance de vol féminin en planeur, 305 km. Ses performances vont lui permettre d'acquérir une certaine notoriété. notoriété. Elle intègre la Luftwaffe alors qu'elle a 25 ans et elle est déjà commandant. C'est la première fois qu'une femme obtient un grade aussi élevé. Elle est connue dans le monde entier grâce à la propagande nazie qui va faire d'elle un peu, si vous voulez, une sorte de symbole d'un régime renaissant, le symbole d'une jeunesse combattante, etc. En février 38, elle est encore la première femme à piloter un hélicoptère, un Focke-Wulf FV-61. Tous les jours, pendant deux semaines, dans un stade de Berlin, elle réussit à faire voler cet appareil, cet hélicoptère, qui est la grande découverte de l'époque. Et ça, devant des milliers de spectateurs, bien entendu. Au début de la guerre, elle effectue des essais sur des avions utilisés pour combattre, notamment des Messerschmitt, des avions extrêmement difficiles à manœuvrer. Alors elle fait la part des choses, bien sûr. Dans une interview de 76, elle dira « La machine était d'une construction si primitive qu'elle était vraiment difficile à piloter. Il fallait tellement de force. Je me disais que ce qui était trop fatigant pour moi au bout de 5 minutes le serait certainement pour un homme musclé au bout d'une heure. » Elle teste aussi des appareils dont les dispositifs sont destinés à couper les câbles d'acier des ballons anti-aériens. On vise là notamment les ballons britanniques, bien entendu. C'est très dangereux tout ça. Anna Reitsch, miraculeusement, va sauver sa vie lors d'un atterrissage en catastrophe. On est déjà en pleine guerre. Elle est parfaitement consciente du caractère militaire des missions qu'on lui confie. En mars 41, à la chancellerie de Berlin, elle est même faite chevalier de la Croix de Fer. Elle reçoit la Croix de Fer de deuxième classe des mains d'Adolf Hitler. Inutile de vous dire qu'elle est galvanisée. C'est Claudio Abbado qui dirigeait l'orchestre philharmonique de Berlin dans cette marche, une variation, une métamorphose symphonique sur des thèmes de Weber et signée Paul Hindemith.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors on est donc en pleine guerre, il serait temps quand même pour Anna Reitsch de revenir sur l'admiration qu'elle voue à Hitler, mais pas du tout en fait. Elle au contraire est encore plus galvanisée qu'elle l'était avant. En 42 sort des usines le premier avion fusée de chasse du monde, le Messerschmitt 163 baptisé Comet, un appareil qui est un petit peu le précurseur si vous voulez des avions supersoniques. C'est d'ailleurs à l'époque l'avion le plus rapide du monde, il peut aller jusqu'à 1000 km/h, atteindre les 10 6000 mètres en 1 minute 30, vous imaginez ça? Eh bien, Anna Reitsch, alors que la plupart des pilotes hésitent beaucoup à tester cet appareil, elle monte à bord. Elle sait qu'un certain nombre de pilotes avant elle ont perdu la vie dans ce genre d'essai. Eh bien, peu importe, elle prend les commandes de ce Messerschmitt 163. Sauf qu'à peine 5 minutes après le premier décollage, eh bien, l'avion n'a pas assez de carburant, il a été mal réglé. Bref, il va falloir essayer d'atterrir. Anna Reitsch, disons les choses, perd complètement le contrôle. L'avion va s'écraser dans un champ, on se dit cette fois elle est morte. Eh bien non, elle survit au crash. Elle a certes de multiples fractures, une prothèse qui remplace son nez cassé lors de l'accident, mais il n'empêche qu'elle est là toujours et elle dira qu'elle garde un bon souvenir de cette expérience manquée. « Ce vol était fascinant, j'ai eu l'impression de faire un trou dans le ciel », dit-elle. Oui, vous commencez à comprendre un peu la personne dont nous parlons ce matin. Elle est un peu bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais son courage reste un modèle pour le régime nazi. Et Hitler va lui décerner cette fois la croix de fer de première classe, de quoi lui donner la force de se remettre. Les médecins avaient été pessimistes sur la possibilité de Reitsch de pouvoir voler de nouveau. Eh bien, après avoir motivé les troupes allemandes mobilisées sur le front Est, la voilà qui, malgré les revers subis à la fin de l'année 42, pense qu'elle peut encore rendre service à l'Allemagne. Elle est convaincue que l'Allemagne va encore gagner d'ailleurs et elle veut à tout prix se mettre au service du régime. Donc, sitôt remise de son accident, elle va effectuer un essai à bord d'une fusée V1 transformée en avion, hein, en version pilotée, vous imaginez ça. Reitsch va une fois de plus échapper à la mort après un atterrissage difficile, mais elle est certaine que cette fusée V1 embarquée sur un bombardier est la solution qui devrait permettre à l'Allemagne de vaincre les Alliés. Elle veut également mettre en place des missions suicides, enrôler des kamikazes qui devraient utiliser des Messerschmitt fixés sur un bombardier et s'écraser sur des cibles alliées. Ah, elle ne manque pas d'idées. Hein. Elle a un soutien de poids pour essayer de convaincre Hitler de mettre en place ces espèces de missions suicides, c'est Otto Skorzeny, vous savez, qui est très proche du Führer et qui est connu pour ses opérations très audacieuses. 70 volontaires vont être recrutés, formés par Anna Reitsch, mais finalement le projet est abandonné. Il faut vous dire que là maintenant, la défaite de l'Allemagne paraît inévitable. On est à l'automne 44 et d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'Anna Reitsch va recevoir des documents qui prouve l'existence de camps d'extermination, qui prouve l'existence des chambres à gaz. Elle est un peu interloquée sur le coup, elle va en parler à Himmler, qui lui dit qu'il ne s'agit que de propagande ennemie. Et elle préfère la version d'Himmler à celle des bonnes âmes qui se sont chargées de la dessiller. Elle est persuadée que le régime ne pourrait pas commettre de telles atrocités. Il est là pour le bien de l'Allemagne, pour la grandeur de l'Allemagne. Et elle va montrer une fois de plus sa dévotion à Hitler. Elle décide d'accompagner le général von Greim, qui est le commandant en chef de la Luftwaffe, jusqu'au bunker où se trouve Hitler. À ce moment-là, on est vraiment dans les dernières heures. Hein. On est à Berlin, bien entendu, Berlin en ruine, encerclé déjà par l'armée rouge. Le 26 avril 45 à 17h, depuis un aérodrome qui est situé à 20 km de Berlin, Anna Reitsch prend place dans un petit avion biplace qui est piloté par von Greim. L'appareil décolle, mais comme il fallait s'y attendre évidemment, la DCA russe soviétique est là, bien entendu. Il faut essayer d'échapper à tous les tirs. L'avion est touché à plusieurs reprises et soudain, aux abords de Berlin, un tir d'artillerie va traverser le cockpit et atteindre le pied de Greim, qui est au palonnier, qui est aux commandes. Il s'évanouit aux commandes, le pilote. L'avion commence à descendre en piqué. Et là, Anna Reitsch, qui est assise derrière, qui est donc derrière le pilote, va se pencher sur lui, va essayer de l'écarter comme elle peut et prendre du siège arrière les commandes de l'appareil. Elle va piloter comme ça par-dessus l'épaule de Greim et parvenir à poser l'appareil sur la piste de la porte de Brandebourg.
Thank you.
Un extrait du Don Quichotte de Richard Strauss, l'orchestre symphonique de Boston était sous la baguette de Seiji Ozawa.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Elle a réussi à faire cet atterrissage absolument extravagant dans Berlin, en flammes, Anna Reitsch. Elle réquisitionne une voiture et puis avec Grimm, elle va se présenter devant Hitler, dans le bunker de la chancellerie. Hein. Là où se trouve le dernier carré de fidèles, avec notamment la famille Goebbels, vous savez. Le Führer, qui pense qu'un retournement de situation est encore possible, va promouvoir Grimm au rang de Feldmaréchal et le nommer chef de la Luftwaffe à la place de Göring. L'armée de l'air allemande est anéantie. En vérité, le 28 avril, Anna Reitsch va trouver Hitler complètement abattu. Himmler est déjà en train de négocier avec les alliés. Hein. Elle écrit dans une lettre à son frère : il se démenait comme un fou, son visage empourpré était devenu méconnaissable, puis il est devenu blanc comme un linge et offrit le spectacle d'une vie déjà éteinte. Anna Reitsch et Grimm veulent néanmoins rester auprès d'Hitler, qui refuse. Elle insiste, elle propose à Hitler de l'exfiltrer du bunker, de l'emmener grâce à son avion. Mais Hitler la congédie après lui avoir confié une capsule de cyanure pour le cas où elle devrait se suicider. C'était comme ça à l'époque. Peu après, le visage baigné de larmes, nous dit Joachim Fest dans l'ouvrage « Les derniers jours d'Hitler », l'aviatrice quitta le 29 avril le bunker avec von Grimm. Après avoir réussi, contre toute attente, à sortir de la capitale, elle devait raconter son séjour à Berlin au général Koller, décrivant ce qu'elle avait éprouvé en ces termes. Il faut s'agenouiller avec vénération devant l'autel de la patrie. Pour sa part, von Grimm déclara avec exaltation que ses jours passés aux côtés d'Hitler lui avaient fait l'effet d'une cure de jouvence. Non mais voyez comme ces gens pouvaient être complètement fanatisés. On n'arrive même pas à comprendre que, alors que là, ça y est, les troupes américaines et les troupes russes sont en train de faire la jonction, mais on dirait qu'elle ne comprend pas. Elle est quand même arrêtée, bien sûr, Anna Reitsch. On a envie de dire ouf, elle est détenue 18 mois. Et pendant sa captivité, elle va regarder, parce que c'est obligatoire, des films que les Américains ont tournés dans les camps de concentration. Elle est toujours convaincue néanmoins qu'il s'agit de propagande et qu'on lui ment. Elle va être blanchie en 1946 parce qu'après tout, elle n'a pas commis de crime de guerre et elle rentrera chez elle comme tant et tant d'Allemands, n'est-ce pas ? Elle apprendra à ce moment-là la mort de ses parents et de sa sœur dans des circonstances sordides puisque le père d'Anna Reitsch, qui était incapable de supporter l'idée de la défaite de l'Allemagne, avait mis fin au jour de son épouse et de sa fille avant de se donner lui-même la mort. Donc toute la famille d'Anna Reitsch est morte. Elle va s'exiler en Autriche parce qu'elle n'est plus persona grata dans la nouvelle Allemagne qui est en train de se constituer, bien entendu. Et là, il y a cet épisode incroyable où on la voit entretenir une correspondance avec Yvonne Panier qui a été déportée à Ravensbrück. Et Yvonne Panier, après la mort d'Anna Reitsch, écrira « Peu après mon rapatriement, je me suis consacré pendant des mois à des tournées de conférences en Allemagne pour la réconciliation franco-allemande. C'est à cette occasion que j'ai connu Anna Reitsch. J'ai moi-même traduit son livre « Aventure en plein ciel » en 1952. Un même sentiment d'amour de la patrie nous rapprocha, bien qu'ayant combattu dans des armées adverses. Oui, ça c'est vraiment le moins qu'on puisse dire.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors au cours des années 50, Reitsch voyage un peu partout. Elle se rend en Inde. Elle va travailler à la mise sur pied d'un réseau de planeurs sous les ordres du Premier ministre Nehru. En 61, elle est invitée à Washington par le président John Kennedy. L'année suivante, elle va monter une école de vol à voile au Ghana. Sauf qu'elle travaille avec le président Nkrumah, vous savez, qui est un terrible dictateur et qui sera renversé en 66. Elle est donc à ce moment-là expulsée du Ghana. En 78, elle a 66 ans donc, elle décroche le record du monde féminin en planeur sur une distance de 915 km. C'est son dernier record, Anna Reitsch, puisqu'elle meurt le 24 août 1979 à Francfort d'une crise cardiaque. Jusqu'à son décès, Anna Reitsch n'a jamais renié cette espèce de fascination qu'elle avait toujours éprouvée pour Hitler. Dans une interview d'un journal américain qui date de 70, elle dit « Je n'ai pas honte de dire que j'ai cru au national-socialisme. Je porte toujours la croix de fer avec des diamants qui m'a été remise par Hitler. » C'est assez incroyable cette histoire. Et si j'ai voulu vous la raconter ce matin, c'est pour vous dire à quel point, jusqu'à une période relativement récente, certains n'avaient pas du tout tiré les conclusions de la Seconde Guerre mondiale.
Vous écoutez Radio Classique.